Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Partageons un moment dans la prière avant d'ouvrir la parole de Dieu ce soir. Père, merci encore pour le frisson qui pénètre dans nos cœurs lorsque nous nous rencontrons, sachant que nous pouvons chanter tes louanges, tendre la main pour toucher ton peuple et t'entendre parler à travers ta parole. Cela nous remplit d'une grande joie. Bénis-nous maintenant, alors que nous t'écoutons parler. Que ce soit bien toi, et non une voix humaine, et nous t'en remercions, au nom du Christ. Amen. Daniel 9 est notre chapitre pour ce soir, et je ne pense pas que le temps nous permette de partager tout ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, au sujet des 19 premiers versets. Mais nous allons prendre un bon départ ce soir, et si Dieu le veut, nous terminerons le sujet dimanche prochain. Daniel, chapitre 9. Je ne vais pas prendre le temps de lire les 19 premiers chapitres en entier, parce que nous ferons cela tout au long de l'étude. Je veux vous dévoiler le sujet comme une fleur, ne volant rien de sa majesté, avant de vous faire comprendre le mouvement de ce passage. Et donc, nous allons le prendre comme il vient. Je crois vraiment que l'Esprit de Dieu gouverne la façon dont la parole de Dieu est apportée au peuple de Dieu. Je crois que Dieu a le contrôle de ce genre de choses. Des personnes me demandent tout le temps « Comment savez-vous sur quoi prêcher ?» Et je leur dis « Je passe du temps dans la prière, en écoutant l'Esprit de Dieu, en essayant d'évaluer où en est l'Église, et alors que le Seigneur semble ouvrir ma compréhension, ce que je devrais enseigner devient relativement clair pour moi. C'est plutôt subjectif, et c'est en réalité sous la direction de l'Esprit de Dieu qu'il conduit. Et je n'ai aucun doute dans mon esprit que Dieu nous conduit dans l'étude de ces choses que nous étudions. Il y a quelques semaines, nous passions beaucoup de temps à étudier la prière du disciple dans Matthieu 6, 9 et les chapitres suivants. Nous avons étudié cela, en fait, pendant 12 semaines, et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais nous avons passé 12 semaines dans ce qu'on appelle le Notre Père. Nous avons passé énormément de temps à étudier cette prière. Le dimanche matin, nous avons étudié un autre élément de la prière, au chapitre 7 de Matthieu, où il est dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. » Et encore ce soir, nous revenons au même thème de la prière. Je ne pense pas que ce soit par accident. Je crois que c'est par conception divine pour le renforcer. Je ne pense pas que nous puissions sous-estimer le besoin et la valeur de la prière. Et je pense que plus nous étudierons la parole de Dieu, plus nous reviendrons sur ce thème, parce que c'est un thème récurrent dans l'Écriture. Je crois franchement que Daniel, chapitre 9, versets 1 à 19, est peut-être le plus grand passage de l'Ancien Testament sur la prière. Je ne veux pas dire par là que cela nous donne des instructions sur la façon de prier, mais que ce passage nous montre ce qu'est vraiment la prière, d'une manière majestueuse et épanouissante. Il peut y avoir d'autres chapitres qui sont son égal, mais je ne sais pas s'il y en est qui le dépasse. Il ne nous enseigne pas la prière par précepte. Il nous enseigne la prière en nous laissant participer à la prière de quelqu'un. Et c'est la meilleure façon d'apprendre, je pense. Donc, ce que je veux que vous fassiez, c'est de coupler cette prière modèle avec la prière modèle du Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 6 et voir comment les deux se réuniront dans votre pensée pour renforcer ce que l'Esprit de Dieu vous a déjà enseigné dans cette série. Et en passant, ce sera bientôt publié dans une série spéciale de cassettes qui devrait faire partie intégrante de la bibliothèque de chaque chrétien, afin que nous puissions revenir périodiquement réécouter ce qui caractérise la vie de prière d'un chrétien. Maintenant, Daniel, comme vous le savez, si vous avez étudié l'homme et le livre, a établi pour nous un standard d'excellence spirituelle dans presque tous les domaines imaginables. Quand nous avons étudié en détail les premiers chapitres de ce livre merveilleux, Nous étions très conscients que Daniel était un homme remarquable. Son niveau d'engagement et de dévouement était très différent du niveau des autres hommes. Il avait la tête et les épaules au-dessus de tout le monde autour de lui, même les plus engagés, comme ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Il y avait juste quelque chose, c'est Daniel, quelque chose au-dessus de tous les autres hommes. Et comme il est un modèle pour nous, une norme d'excellence spirituelle, dans tant d'autres domaines, nous ne devrions pas être surpris en constatant qu'il est un modèle aussi pour nous dans le domaine de la prière, qu'il soit pour nous un modèle, une norme et un exemple comme il fut dans ces autres domaines de sa vie. Juste pour vous rappeler, par exemple, que nous l'avons vu intransigeant, audacieux, plein de foi, altruiste, humble, totalement résistant au monde qui l'entoure, persistant dans son engagement. Nous l'avons vu saint, incorruptible, cohérent dans son style de vie, digne de confiance, vertueux, obéissant, adorateur. Et maintenant nous trouvons que c'est un homme de prière, comme nous l'avons vu au chapitre 6. Il était tellement un homme de prière que si vous vous souvenez du chapitre 6, il n'arrêtait pas de prier, même si cela ne pouvait le mener qu'à être jeté dans la fosse aux lions. C'était un homme de prière. Nous voyons, surtout dans la prière du chapitre 9, qu'il nous montre qu'il était un homme avec un sens très profond du péché. Un homme incroyable, et pourtant pas si incroyable, car il était un homme comme les autres, sauf par le fait qu'il s'était totalement engagé à Dieu, dès sa jeunesse. Et c'est une alternative qui est offerte à tout le monde. Maintenant, dans ce chapitre, le chapitre 9, Daniel prie. En examinant sa prière, nous y trouvons les éléments de la vraie prière d'intercession. C'est un message qui peut se tenir seul en dehors du livre de Daniel, tout comme un traité sur la prière en soi. Et pourtant, il a un lien merveilleux entre le livre total et le contexte global. Laissez-moi vous montrer comment. Tout d'abord, il y a un contexte biblique que je veux que vous notiez. Daniel, chapitre 9, incarne une prière et sa réponse. La prière est une prière concernant 70 ans. La réponse est une réponse concernant 70 semaines d'années. La prière est une prière pour la restauration. La réponse est la réponse de la restauration ultime à venir, du Messie. Ainsi, le chapitre est divisé en deux parties. La première est sa réponse. Et tandis que la prière a eu lieu à un moment donné, un jour dans la vie de Daniel, la réponse s'étend jusqu'au royaume du Christ. Et je pense que Dieu a répondu d'une manière si magnanime à cause de la grande vertu de l'homme qui a prié. La plupart des hommes qui, lorsqu'ils étudient le chapitre 9 de Daniel, vont directement à la prophétie des 70 semaines, voir comment une prophétie, de là, et reconstruction de la ville à la venue du Messie, serait une certaine période de temps. Puis après cela, il y aurait une autre période de 7 ans. Ensuite le Messie, le prince viendra. Et alors la grande prophétie messianique retient l'attention de la plupart des personnes qui étudient le 9e chapitre de Daniel. Mais c'est malheureux dans un sens, parce que c'est seulement la réponse à la prière, et la prière est l'axe principal du chapitre. En fait, il y a 2 fois plus d'emphase donnée au verset sur la prière qu'à sa réponse. La prophétie est importante, mais elle ne peut pas remplacer la prière. Dieu ne nous appelle jamais à être si spéculatifs ou si attachés à l'avenir, au point que nous perdions de vue le présent. C'est l'essence de la signification de la prière. Maintenant, Dieu a déjà donné à Daniel toute la portée prophétique de l'histoire des païens. Mais dans ce chapitre, il lui donne l'avenir de l'histoire d'Israël. Et ainsi cet homme dans l'Ancien Testament bénéficie, par l'Esprit de Dieu, de la compréhension de toute l'histoire païenne, ainsi que le grand et glorieux point culminant de l'histoire juive. Il a déjà entendu qu'Israël souffrirait, qu'elle souffrirait pendant le temps du règne païen. Jérusalem serait piétinée, qu'Antioche, Épiphanie et l'Antéchrist viendraient pour massacrer les hommes. Mais le résultat final ne serait pas négatif, mais positif, car finalement le prince viendrait établir son royaume. Et ainsi Daniel reçoit un balayage gentil de l'histoire, ainsi qu'ultimement ce que Dieu va faire avec Israël. Et cela arrive à la consommation ici, au chapitre 9. Il se passe quelque chose ici, car à la fin du chapitre 8, nous trouvons que Daniel, à la fin du verset 27, était malade et étonné de ce qu'il voyait. Voyant l'épouvantable histoire des païens, la terrible oppression du peuple d'Israël, cela le rendit malade et défaillant. Physiquement, il portait un fardeau qui lui était très dur, et cela le faisait s'effondrer. Quand vous arrivez au chapitre 9, que vous voyez l'épuisement physique, il en arrive à un point de grande compassion spirituelle. C'est son désarroi pour ce qui va arriver à Israël, comme indiqué au chapitre 8, qui nous aide à comprendre si facilement le chapitre 9. Parce qu'ici, il commence à prier pour Israël. Sachant ce qui va arriver, la prière se répand. Et c'est peut-être pourquoi l'Esprit de Dieu a placé le chapitre 9 après le chapitre 8. Maintenant regardons non seulement l'ordre biblique, mais l'ordre historique. Le verset 1 nous donne ce cadre. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel est devenu roi sur le royaume des Chaldéens. Maintenant, cela nous indique quand les événements du chapitre 9 se sont produits, dans la première année du règne de Darius. C'est le même Darius qu'au chapitre 6, et puisque c'est la première année de son règne, cela nous amène vraiment au même moment qu'au chapitre 6. Cela doit être arrivé à peu près en même temps que l'expérience dans la fosse aux lions. Ainsi, la vie de prière de Daniel aurait été liée par le temps aux choses pour lesquelles il priait dans le chapitre 6, face à un désastre potentiel, même le fait d'être jeté dans la fosse aux lions. C'est encore une fois la première année de Darius, comme le temps de l'expérience de la fosse aux lions. Maintenant, notez comme note de bas de page que Darius est un nom qui, comme je vous l'ai suggéré lorsque nous avons étudié le chapitre 6, n'est probablement qu'un autre nom pour Cyrus, le premier grand monarque de l'Empire médo-perse. L'Empire babylonien s'est terminé au chapitre 5, avec la terrible fête de Balthazar, une orgie d'ivrogne dont vous vous souvenez, et à ce moment-là, il y avait une écriture manuscrite sur le mur. Tu as été pesé sur une balance, et ton poids n'a pas été jugé suffisant. Ton royaume a été divisé pour être livré aux Mèdes et aux Perses. Ils sont venus et ont établi leur royaume, et la première phase du pouvoir païen s'est déplacée pour laisser la place à la deuxième phase, l'Empire médo-perse, qui a été gouverné par Cyrus. Darius est un titre, et il pourrait être traduit comme le détenteur du spectre, ce qui pourrait être un titre comme roi, monarque, pharaon, souverain, ou quelque chose comme cela. C'est peut-être la meilleure façon de l'expliquer. Il nous dit que Darius était le fils d'Assuérus, mais il y avait tellement de personnes, tant de rois à l'époque médo-perse, qui ont pris le nom d'Assuérus. C'était un nom si commun que nous n'avons vraiment aucune idée de qui c'était. Il nous dit aussi qu'il était de la semence des Mèdes. Cyrus était un Perse, mais en tant que dirigeant de l'Empire médo-perse, il reçut le statut comme s'il était de la semence des Mèdes. En d'autres termes, apparemment, en gouvernant l'Empire médo-perse, il pouvait revendiquer la dissidence des Mèdes et des Perses, et se recommander donc aux deux groupes de personnes qui étaient amalgamés dans l'Empire. Et puis il dit finalement, dans le verset 1, qu'il a été fait roi sur le royaume des Chaldéens. Le royaume des Chaldéens serait le territoire de l'ancienne Babylone. Donc les Mèdes et les Perses avaient leur région. Et quand ils ont conquis Babylone, ils ont pris le contrôle des Babyloniens ou des Chaldéens. Le souverain a ensuite pris sa descendance, s'identifiant à la fois aux Mèdes et aux Perses pour qu'ils soient acceptés par les deux. Et c'est l'individu que nous connaissons peut-être le mieux, Cyrus, le premier dirigeant. Maintenant, les dates du règne de cet homme varient de 536 avant Jésus-Christ à 539 avant Jésus-Christ. Et à cette époque, Daniel avait environ 80 ans. Alors il était là depuis longtemps. Quand il est venu au pays, il était adolescent, n'est-ce pas? S'il est arrivé vers l'âge de 14 ou 15 ans, cela ferait 65 ans ou plus qu'il était là. Et certains disent qu'il est resté 67 ans dans ce lieu de captivité. Daniel était célèbre, et même si l'Empire babylonien était mort, Daniel conservait toujours sa position dans le palais. Les Mèdes et les Perses avaient entendu parler de cet homme extraordinaire, qui pouvait interpréter des rêves. Cet homme incroyable qui, lors de son expérience dans la fosse aux lions, a été capable de résister à la férocité des bêtes sauvages. Cet homme incroyable. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que les Mèdes et les Perses connaissaient le caractère de cet homme. Et en tant qu'homme âgé, il était un homme de grande sagesse. la sagesse qui vient à travers les années, que seul le temps peut apporter, pour s'ajouter à ce qui vient de la loi de Dieu. Et ainsi Daniel fut un instrument spécial de Dieu, pendant les années de Darius. Regardez le verset 2 un moment. « La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres. » Et l'article défini est employé dans l'hébreu. Les livres. Pas n'importe quel livre, mais les livres. Vous pouvez l'écrire. Le nombre des années pendant lesquelles la parole du Seigneur est venue à Jérémie, le prophète, qui annonçait que s'accompliraient pendant 70 ans les désolations de Jérusalem. Maintenant, Daniel, 80 ans et plus, qui a été sur ce terrain depuis 65 à 67 ou 68 ans, fait ce que tout homme de Dieu fait. Il lit la parole de Dieu. Bien qu'il ait reçu la révélation divine, qu'il était un instrument à travers lequel Dieu a révélé des éléments futurs, n'a pas effacé la responsabilité d'être un étudiant de la parole de Dieu. Rien n'élimine cette responsabilité, rien. Et donc, il était assidu dans la lecture des livres. Maintenant, il semble évident, suite à cette déclaration, que les Juifs en exil à Babylone, qui étaient là en exil depuis toutes ces années, avaient sans doute rassemblé des rouleaux de la loi de l'Ancien Testament, les écrits des prophètes qu'ils avaient, et les avaient compilés ensemble pour constituer les livres de l'Ancien Testament ou les livres de Dieu. Peut-être que ceux-ci avaient été copiés par certains scribes de l'exil et rendus disponibles. Sans doute Daniel avait un ensemble de ces livres, entre autres choses, et il comprenait les livres de Jérémie. Jérémie en a écrit 2. Jérémie est quoi? Les Lamentations. Tout ce que vous devez vous rappeler, c'est qu'il était le prophète en larmes, et que c'est ce que les Lamentations veulent dire. Ainsi Jérémie, vous vous en souvenez, avait prophétisé avant la captivité, et il avait été appelé par Dieu pour écrire sa prophétie. Il l'avait fait une fois, mais elle a été détruite, et il a donc dû la réécrire une seconde fois, et il le dit dans sa propre prophétie. Et ainsi l'écriture de Jérémie devait être disponible pour Daniel. Maintenant, en lisant Jérémie, il lisait sans doute 2 passages. Laissez-moi vous les montrer. Jérémie 25, versets 11 et 12, est fascinant. Il lisait Jérémie, et il lisait ceci. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone, et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens, et j'en ferai des ruines éternelles. Il les a lus longtemps et il a dit, « Dieu dit que la désolation de Jérusalem doit durer 70 ans. » Ou alors, il était en train de lire le chapitre 29. Parce que dans le chapitre 29, verset 10, vous trouvez la même prophétie. Mais voici ce que dit l'Éternel. « Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. » Maintenant, voyez l'image. Daniel est en train de lire, et il arrive à cette prophétie remarquable. Il croit sans l'ombre d'un doute que c'est la parole inspirée de Dieu. En effet, elle l'était, et il a fait la découverte extraordinaire que 70 ans étaient déterminés pour la captivité. Et vous n'avez pas besoin d'être un génie en mathématiques pour comprendre qu'il savait qu'il était déjà là depuis au moins 65 à 68 ans. Il avait désiré la fin de la captivité de Juda. Il avait désiré voir le peuple de Dieu restauré dans leur pays. Et il savait maintenant que c'était presque fini. Cela devait être presque fini. Je veux dire, si le Seigneur avait commencé en 605, quand Daniel avait été emmené en captivité, cela faisait déjà près de 70 ans. Et si le Seigneur avait commencé en 597, lors de la deuxième grande déportation, c'était tout de même très proche. Et si le Seigneur avait commencé en 586 avant Jésus-Christ, c'était encore un peu plus loin, mais se rapprochait toujours. Et Daniel savait que cela allait se terminer, au bout de 70 ans, ou autour de 70 ans. Il ne savait pas quand cela avait commencé. Lors de la première déportation, quand il avait été pris, lors de la deuxième déportation, ou la troisième, quand la ville a été finalement et complètement saccagée. Il ne savait vraiment pas, mais il a commencé à sentir dans son cœur qu'il était presque temps pour la restauration du peuple de Juda vers sa terre. Et cette merveilleuse et passionnante découverte fut ce qui a mis en place la prière de Daniel. C'est une vérité énorme que nous voulons voir à mesure que nous avançons et étudions cette prière. Daniel avait compris la parole de Dieu. il a commencé à prier. Maintenant, je veux vous montrer autre chose. Je vous ai donné le contexte biblique sur la façon dont cela s'inscrit dans le livre de Daniel, ainsi que le contexte historique, comment cela s'inscrit dans le schéma de l'histoire. Une troisième chose est le contexte spirituel. Je veux que vous voyez un peu l'attitude du cœur de Daniel lorsqu'il vient devant Dieu. Et tout ce que j'ai besoin de dire à ce propos est dans les versets 3 et 4. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu est grand et redoutable. Maintenant, que voyez-vous là, à propos de son attitude? Que voyez-vous d'un contexte spirituel? Tout d'abord, au verset 3, je vois l'humilité. Au verset 4, je vois la confession, je vois la révérence. L'humilité, la confession et la vénération, c'est la bonne attitude de prière. Vous venez avec ce genre de cœur pour chercher Dieu. Le fardeau de sa prière était son propre péché et la majesté grande et impressionnante de Dieu. Maintenant que vous voyez le contexte biblique, historique et spirituel, je veux que vous voyez la prière elle-même. Et pendant que nous traversons ce passage, je vais passer par une petite liste de 8 choses. Nous verrons combien nous pourrons en couvrir ce soir. Cela nous parle de la nature de la vraie prière d'intercession. Et, bien aimé, ce sont des principes que vous pouvez écrire dans votre Bible quelque part. Des principes que vous pouvez écrire sur une feuille de papier, afin de vous en souvenir et de les mémoriser. Écrivez-les dans la marge et souvenez-vous que ce sont les éléments de la prière. Ils sont intemporels. Ils traversent tous les âges pour gouverner et guider notre communion avec Dieu. Premièrement, la prière est en réponse à la parole de Dieu. Pour moi, c'est la première réalité bouleversante qui m'a frappé quand j'ai étudié ce passage. Le verset 2 encore. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. La prière de Daniel est née de la compréhension de la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit tant de fois qu'il est très important d'étudier la parole de Dieu et que la prière vient ensuite. Parce que si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, nous ne comprenons pas les buts et les plans de Dieu afin de gouverner et de guider nos prières. C'était quand Daniel a vu le plan de Dieu qu'il a commencé à prier. C'est lorsque Daniel a perçu ce que Dieu avait en tête qu'il a commencé à communier avec lui. En fait, je suis sûr que Daniel a même cru que sa prière était un élément dans l'accomplissement de la parole de Dieu elle-même. Maintenant, d'une part, il a reconnu avec certitude le dessein divin. Daniel croyait totalement et absolument la souveraineté de Dieu. Daniel croyait que l'écriture de Jérémie disait qu'il prophétisait la parole du Seigneur et qu'il savait qu'elle ne serait jamais changée. Dieu accomplirait sa parole, et pourtant Daniel priait encore. Maintenant, la raison humaine dirait ceci. Vous lisez en Jérémie, ce sera 70 ans, et Dieu accomplira toujours sa parole, n'est-ce pas? Donc, votre réponse serait de prier quoi? Pourquoi allez-vous prier? C'est évident, c'est fini, 70 ans. Pourquoi prions-nous? Maintenant, c'est la réponse typique de la raison humaine. Cela n'a pas de sens. Mais ce n'est pas la réponse de Daniel. Même si nous ne comprenons pas la relation entre la prière sur le plan humain et la souveraineté sur un niveau divin, Daniel a, d'une certaine façon, ressenti la responsabilité, et c'est là le problème. Je ne sais pas, je ne comprendrai jamais la relation entre Dieu et l'homme. Je ne la comprends à aucun niveau. Je ne comprends pas comment Dieu peut se réunir avec l'homme pour quoi que ce soit. Je ne comprends pas comment Dieu peut écrire la Bible, et les hommes peuvent être utilisés comme instruments. Je ne comprends pas comment Dieu peut devenir un homme et être Dieu en même temps. Je ne comprends pas comment je peux être sauvé par mon propre choix, et pourtant c'est la volonté souveraine de Dieu avant la fondation du monde. Je ne comprends pas comment Dieu peut faire son travail souverain, et mes prières en font partie. Mais ce n'est pas à moi de comprendre. Quand Daniel a lu le plan de Dieu, plutôt que de devenir fataliste à ce sujet, plutôt que de claquer le livre ou fermer le rouleau en disant « Bah voilà, laissez-moi m'asseoir tranquillement dans ma chaise à bascule, c'est presque fini », il s'est immédiatement mis à genoux dans le brisement et la pénitence et a crié à Dieu dans des vêtements de deuil, assis dans les cendres, au nom de son peuple. Que Dieu le fasse. Vous savez ce qu'il demande dans sa prière. Il ne parle jamais de la requête avant le verset 19. Et vous savez ce que c'est. Un mot, agis. Vous le voyez là. Agir, ne tarde pas. Le faire sans tarder. Maintenant vous dites, pourquoi priez-vous cela? Je veux dire, Dieu dit qu'il va le faire. Daniel n'est pas intéressé par être un théologien logique qui suit le raisonnement humain. Il déverse simplement son cœur. Vous dites pourquoi? Laissez-moi vous dire pourquoi. Vous savez pourquoi nous devons prier quand nous découvrons les desseins de Dieu dans sa parole? Non parce que Dieu a besoin de nos prières pour le faire, mais parce que nous devons nous aligner dans le camp de Dieu. La prière est pour nous. Nous alignons notre cœur avec ses causes. Nous voyons notre péché. Nous voyons le besoin de sa grâce et de sa puissance, et nous nous soumettons à son plan. Ainsi, la prière et la parole sont inséparablement liées. Je ne pense pas que vous puissiez prier correctement si vous n'êtes pas dans la parole de Dieu. Laissez-moi vous l'illustrer. Regardons le psaume le plus long. Le psaume 119 l'exprime au moins en 3 versets. Laissez-moi vous les lire, et ensuite nous examinerons d'autres écritures. Psaume 119, verset 24. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Leurs témoignages me donnent la joie, et sont mes conseillers. En d'autres termes, quand je lis ta parole, tes témoignages deviennent mon conseiller. Ils deviennent ce qui instruit mon esprit. C'est absolument nécessaire. Continuez au verset 99 du même psaume. J'ai plus de compréhension que tous mes professeurs, car tes témoignages sont ma méditation. Je comprends tout ce que les anciens disent, parce que je garde leurs préceptes. En d'autres termes, le psalmiste dit simplement, « Si je veux entrer dans tes plans, si je veux comprendre tes préceptes, je dois m'engager dans ta parole. » Et puis, dans la prière, « Ce n'est pas que je prie pour que Dieu change ce qu'il va faire, c'est que je m'identifie à ses plans. » La prière et la parole sont inséparablement liées, car je ne peux pas prier intelligemment pour ses plans si je ne comprends pas ce que dit sa parole. Je pense à l'apôtre Jean. Jésus lui dit au chapitre 22 de l'Apocalypse, « Voici, je viens rapidement. Tu sais ce que Jean fait. » Il prie. Il dit, « Viens, Seigneur Jésus. » Tu dis, « Jean, c'est idiot. Il vient de dire qu'il vient. Que pries-tu ? » Et Jean dira, « Parce que je m'identifie à la nécessité de sa venue. » C'est un point d'identification avec le but et le plan de Dieu. La lecture de la parole et la prière vont merveilleusement bien ensemble dans les livres d'Esdras et de Néhémie. Cela vaut peut-être la peine de jeter un coup d'œil dans Esdras, chapitre 9 et verset 4. « Puis furent rassemblés à moi tous ceux qui tremblaient devant les paroles du Dieu d'Israël. Quand ils ont eu la loi de Dieu et qu'ils l'ont lue, les gens ont commencé à trembler. Et tous ceux qui tremblaient devant le Dieu d'Israël, Esdras 9, verset 4, dit « Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël, à cause du péché des fils de la captivité, et moi je restais assis et désolé, jusqu'à l'offrande du soir. Maintenant, quand le peuple est revenu à Jérusalem, il est venu sous la direction d'Esdras et de Néhémie, et quand il a commencé à lire la parole de Dieu, et que les hommes ont commencé à entendre pourquoi ils ont été envoyés en captivité au début, ils ont tremblé. Donc, ils lisaient la parole de Dieu. Et le verset 5 dit, « Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation, avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombai à genoux. J'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu. Et il commence à prier. C'est une vraie prière. Elle est née d'une compréhension des normes, des plans, des principes et des préceptes de Dieu révélés dans sa parole. Vous trouvez dans Néhémie, chapitre 8, une situation similaire. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Il dira à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Ils lui ont fait une estrade en bois, et le verset 5, il a ouvert le livre à la vue du peuple, car il était élevé au-dessus du peuple, et quand il l'ouvrit, tout le monde se leva, et il lut la parole de Dieu. Et ensuite, il l'a expliqué, et il leur a dit ce que cela signifiait, et quelle fut leur réponse. Si vous lisez plus loin, vous trouvez que tout d'abord, ils ont commencé à examiner leur propre cœur. Ils louaient Dieu et ils confessaient leurs péchés. Le chapitre 9 nous dit que les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Vous voyez encore, vous avez la même réponse. Quand la loi de Dieu a été lue, les hommes se sont mis à genoux. Écoutez, si vous pouvez lire la parole de Dieu et ne pas être poussé à la prière, alors vous n'écoutez pas ce que vous lisez, parce que tout ce que vous lisez devrait vous pousser à la confession du péché dans votre vie ou à la gratitude envers Dieu pour la bénédiction ou la reconnaissance pour le plan qui se déroule. C'est pourquoi dans Actes au chapitre 6, il nous dit que les apôtres devaient se donner continuellement à la prière et au ministère de la parole. Ça va ensemble. Dans une autre illustration, l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 3, dit « J'ai reçu la dispensation de la grâce de Dieu, et c'est par révélation que Dieu m'a fait connaître le mystère, qui est essentiellement la compréhension du Christ et du Nouveau Testament, et je vous transmets le mystère qui n'a pas été révélé dans les temps passés, mais qui est maintenant révélé aux saints apôtres et prophètes par l'Esprit. » Il continue à décrire toute la vérité de la parole de Dieu. Et il dit encore, « Pour cette raison, je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et je prie pour que vous puissiez être capables de comprendre. Vous voyez, cet amour qui est enraciné et fondé dans la révélation de Dieu. Et ainsi nous trouvons que Paul a reçu la parole, et elle l'a conduit à nouveau à genoux. La parole génère la prière. Et quand elle parle de Dieu, nous désirons communier avec lui. Quand elle parle de la bénédiction, nous désirons ardemment le louer. Quand elle parle de gloire, nous avons hâte de la recevoir. Quand elle parle de promesses, nous aspirons à les réaliser. Quand elle parle de péché, nous nous dépêchons pour les confesser. Quand elle parle de jugement, nous aspirons à l'éviter. Quand elle parle de l'enfer, nous prions pour les perdus. Ainsi, la parole de Dieu est la raison qui mène à la prière. Juste parce que nous savons que quelque chose est inévitable, cela ne veut pas dire que, fatalement, nous nous relevons et nous tournons le dos dans une sorte d'indifférence théologique maladive. La prière de Daniel, comme toute prière, est née de l'étude et de la compréhension de la parole de Dieu. C'est ce qui encadre notre vie de prière et la façonne. Donc, tout d'abord, la prière est générée par la parole de Dieu. Deuxièmement, la prière est fondée sur la volonté de Dieu. Elle est fondée sur la volonté de Dieu. Elle est générée par la parole. Elle est ancrée dans sa volonté. Maintenant, au verset 2 du chapitre 9, Daniel dit « La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. » Clairement révélé, mais néanmoins, il n'y a aucun signe ou démission de la part de Daniel. Il croyait que la prière était, comme je l'ai dit, un élément de l'accomplissement. Si Dieu a un but, son peuple s'identifie à sa volonté. « Je ne prie jamais, et je ne pense pas que quiconque devrait le faire, comme si nous voulions changer la volonté de Dieu. Nous prions pour aligner nos cœurs avec sa volonté, et sa volonté est toujours de bénir ceux qui sont obéissants. » Une autre illustration à laquelle je pensais dans cette même idée, au chapitre 6 de l'Apocalypse, versets 9 à 11. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Combien de temps le mal fera-t-il son chemin ?» Et vous savez, quand je l'ai lu, je me suis dit « Ok, qu'est-ce que vous voulez dire par combien de temps ?» Vous devez savoir combien de temps. C'est 3 ans et demi. C'est écrit partout dans la Bible. Mais même ainsi, même s'ils avaient pu lire les prophéties de Daniel, et qu'ils avaient pu comprendre l'écriture du Nouveau Testament à ce moment-là dans le futur, et connaître tout ce que Dieu avait prévu pour cette époque des troubles de Jacob, pendant ces 7 ans, ce 3 ans et demi de grande tribulation. Néanmoins, même s'ils avaient pu savoir exactement combien de temps, ils avaient toujours le désir dans leur cœur que cela se termine. Ils s'identifiaient à l'injustice faite à Dieu, et ils avaient faim et soif que sa volonté soit faite. Laissez-moi vous montrer une autre illustration très intéressante dans 1 Samuel, chapitre 12 et verset 19. J'espère que vous pourriez saisir cela, alors que je lis. « Et tout comme le peuple, 1 Samuel 12, verset 19, a dit à Samuel, « Prie l'Éternel ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Vous savez qu'ils voulaient avoir un roi, et ils en ont eu un. Ils ont eu un grand roi séduisant, qui était un perdant. Ils ont eu exactement ce qu'ils ont demandé, et ils ont enfin dit, « Maintenant, priez pour nous. Priez pour nous, parce que nous savons que nous avons défié Dieu dans ceci. » Samuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel, et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. Il n'abandonnera pas son peuple. Pourquoi ? Pour l'amour de son peuple ? Non, pourquoi ? Pour son propre nom. Parce que ça plaît au Seigneur de faire de vous son peuple. Accrochez-vous à cela. Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Le verset 23, d'ailleurs, le dit. Quant à moi, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Qu'est-ce qu'il dit par là ? Pour quelle raison prier ? Vous venez de dire que Dieu ne les abandonnera jamais, que Dieu a établi une alliance avec eux, que Dieu a son propre nom en jeu dans la garde de l'alliance. Pourquoi dire que vous pourriez pécher en cessant de prier ? Qu'est-ce qu'il faut prier ? Vous voyez, c'est un raisonnement humain. Samuel a prié parce qu'il s'identifiait avec la volonté de Dieu pour son peuple. Qu'il vive au sein de l'alliance, qu'il soit béni. Il dit au verset 24, « Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. » C'est une conséquence étrange. Dieu n'abandonnera pas son alliance. Dieu ne changera pas son plan. Mais vous pourriez mourir. La seule façon de comprendre cela est que les individus qui péchaient ne verraient pas les promesses, bien que Dieu soit fidèle à la nation dans son ensemble. Le point que je veux que vous voyez ici est simplement que Samuel, même s'il savait que la volonté de Dieu était inévitable, reconnaissait toujours que le fait de ne pas prier à ce sujet était un péché. Et je ne sais pas comment harmoniser tout cela, mais je sais seulement que c'est ainsi qu'un homme de Dieu réagit. Priez constamment selon la volonté de Dieu. Je ne prie jamais, je le répète, je ne prie jamais pour que Dieu change sa volonté. Je ne veux pas ce qu'il ne veut pas me donner, n'est-ce pas ? Je ne le veux pas, je veux seulement que sa volonté soit faite. Et ce n'est pas un ressentiment amer, ce n'est pas une sorte de démission passive, ce n'est pas une réserve théologique. C'est une déclaration honnête et sincère. Nous cherchons la volonté de Dieu. Je sais que Jésus arrive, et je sais qu'il viendra à l'heure exacte où le Père a déterminé qu'il viendrait. Mais je trouve toujours dans mon cœur cette prière. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que tu sois glorifié. Même Jésus n'était pas fataliste. Jésus allait à la croix. Et même en allant à la croix, il demanda dans le jardin, « Père, que cette coupe passe loin de moi. » Il s'est rebellé contre le péché. Il s'est rebellé contre la conséquence de l'homme déchu. Et pourtant, il a dit néanmoins, « Pas ma volonté, mais quoi ? La tienne. » Il s'est révolté quand il a nettoyé le temple. Il n'était pas fataliste, car prier pour la volonté de Dieu et de prier pour que Dieu soit honoré, glorifié et élevé. Et ainsi nous prions comme c'est généré à partir de la parole de Dieu et comme c'est ancré dans la volonté de Dieu. Nous en avons beaucoup parlé dans notre étude de Matthieu 6. Nous n'en dirons donc pas plus. Mais laissez-moi vous donner un troisième point, et nous arrêterons. La prière est alors générée par la parole de Dieu, fondée sur la volonté de Dieu, et caractérisée par la ferveur, au verset 3. Et je pense que vous avez une magnifique image de ferveur dans cette prière. Daniel n'a pas prié comme deux navires qui passent dans la nuit. « Seigneur, au fait, j'ai cette petite pensée que je veux partager avec toi pendant que je passe. » C'est ainsi que beaucoup prient. Daniel, verset 3. Regardez ceci. « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu. » En d'autres termes, il n'a pas seulement fait un hochement de tête, il a fixé son regard sur le Seigneur Dieu. Il y avait une passion, il y avait une persistance, il y avait une intensité dans sa prière. Et il dit, « Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu, en le recherchant, avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. » Il a jeûné. Nous ne savons pas combien de temps. Il s'est couvert avec un sac et des cendres. Tous ces indicateurs culturels de l'humilité. Et j'ai continué à prier le Seigneur mon Dieu. Et vous dites, Daniel, c'est un peu ridicule. Je veux dire, il dit que cela va faire 70 ans. Qu'est-ce qui te bouleverse à ce point? Cela va faire 70 ans. Remets tes cendres dans leur pochette. Mais il y a quelque chose de sérieux ici. La Bible dit de prier sans cesse. On ne peut pas être plus persistant que cela. Dans Luc, chapitre 11, nous nous rappelons l'histoire de l'homme qui est venu et qui a continué à frapper à la porte, et son voisin lui a donné du pain, et le Seigneur a dit, « Si un homme qui dirige un magasin de pain ou une boulangerie vous donne du pain parce que vous frappez beaucoup à sa porte, qu'est-ce que Dieu va faire quand vous priez avec une grande persistance ?» Je ne sais pas comment cela fonctionne, mais nous devenons une partie du plan de Dieu. Jacques 5, verset 16, dit ceci, « La prière fervente du juste a une grande quoi ? Efficacité. Maintenant, je ne pense pas qu'il change les plans éternels. Je pense qu'il va peut-être nous changer. Je pense que la grande valeur de la prière est ce qu'elle fait pour moi, pas ce qu'elle fait à Dieu. La ferveur. Je me suis tourné vers le Seigneur. C'est la détermination devant le Seigneur Dieu. Et il n'utilise pas le terme Yahvé, mais Adonai, ce qui signifie Seigneur, Maître souverain, dans la soumission à l'autorité et à la souveraineté de Dieu. Et pourtant, même quand je réalise que Dieu est totalement souverain, qu'il a toute autorité, je continue mon intercession et mon imploration pour la miséricorde, par le jeûne, le sac et les cendres. Ce n'est pas une petite chose, car au verset 20, vous remarquerez qu'il prie depuis longtemps. Et même au verset 20, il dit, « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Oui, pendant que je parlais dans la prière, même l'homme Gabriel, que j'avais vu dans la vision, au début, était amené à voler rapidement à mon secours, et il m'a touché. Maintenant, je ne sais pas combien de temps cela a duré, mais il a prié, et pendant qu'il parlait, priait, confessait, et présentait sa supplication en continu, finalement Gabriel l'a touché. Ainsi nous voyons qu'il y a une constance dans la prière de Daniel. C'est difficile pour nous, n'est-ce pas? Nous vivons dans une société qui vit en nous par de courtes pensées. Il génère des schémas de pensée. Nos intervalles d'attention sont limités. Nous regardons des programmes de télévision d'une demi-heure. Nous écoutons une petite chanson sur le lecteur de CD qui dure 3 minutes. Nous regardons une publicité de 60 secondes. Nous vivons la vie par petites poussées courtes. Et l'art de la méditation et de la persévérance dans la prière est extrêmement difficile pour nous. Mais Daniel s'y a donné avec le jeûne et les cendres, en confessant son péché. Cet homme, Daniel, pouvait-il être si mécontent et bouleversé à cause de son péché, ou devrais-je être la plupart du temps? Je ne suis pas à la hauteur de son standard, mais je le dis, et je le répéterai la semaine prochaine. Plus votre connaissance de Dieu est grande, plus votre engagement est profond, plus vous êtes submergé par votre péché. Même Paul a dit, « Je suis le quoi ? Le plus grand des pécheurs. » De notre point de vue, nous disons c'est ridicule, mais pour lui, il a perçu le péché dans toute sa noirceur. Pour son esprit pur, c'était une réalité. Et Daniel emploie toutes les indications de la persistance. Il utilise tous les actes possibles d'humiliation, alors qu'il vient devant la citadelle céleste, avec cette pétition sur son cœur. Il porte un sac, connu dans l'Ancien Testament comme un signe d'humiliation. Un autre signe était de verser des cendres sur sa tête. Nous trouvons cela en particulier dans Job 2 au verset 8. Et il jeûne en priant. Il était fervent dans la prière, et je crois que Dieu répond à la ferveur. Je voulais passer au point suivant, mais permettez-moi de résumer ces 3 points, et nous passerons au suivant la prochaine fois. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur continue de souligner cette question de prière avec nous. Il y a beaucoup de choses dont je pourrais vous parler, qui pourraient être plus excitantes ou plus dramatiques. Il n'y a pas beaucoup de choses que je peux vous dire, que vous ne connaissez déjà. Mais je crois vraiment que le Seigneur nous a parlé de la question de la prière ces derniers mois, pour une raison très précise. Je pense que le Seigneur nous appelle à la prière. Ce sont des moments très éprouvants. Nous avons tendance à oublier toutes les batailles qui se déroulent sur tous les fronts que nous combattons ces jours-ci. L'Église de la grâce est constamment attaquée. Je suis constamment attaqué par des sources incroyables que vous seriez surpris de connaître. Cela fait partie de la vie. Nous luttons dans les domaines spirituels avec les familles de notre Église. Nous luttons financièrement en essayant de répondre aux besoins. Nous avons beaucoup de batailles, et je crois vraiment qu'il est facile pour certaines personnes de s'asseoir dans cette église avec tout ce que nous avons autour de nous, en pensant que tout se passe si bien. Alors, qui a besoin de mes prières? Et nous disons que Jésus viendra quand même, et que tout ira bien à la fin. Nous devenons très spirituels, mais c'est vraiment du fatalisme. Et nous ne nous mettons jamais à genoux avec ferveur. Nous ne nous identifions jamais vraiment à la volonté et à la parole de Dieu de la même façon que ce bien-aimé Daniel. Et par conséquent, nous manquons cette communion intime. Vous savez, quand vous priez, vous n'avez pas toujours à venir à Dieu pour une réponse. Parfois, vous pouvez simplement venir à Dieu pour porter le poids du plan de Dieu dans votre cœur, pour que vous puissiez vous identifier avec ses grands et éternels objectifs. Je vous suggère, mes bien-aimés, que le Seigneur ne nous dit pas cela tout le temps, tout simplement, pour que nous nous asseyions sur des bancs et que nous sortions d'ici pour finalement tout oublier. Le Seigneur nous le dit parce qu'il veut que nous y réagissions. Je ne crois pas que nous verrons jamais dans cette Église ce que Dieu peut faire si nous ne nous engageons pas totalement dans la prière. Si votre théologie chamboule votre vie de prière, alors vous avez une mauvaise théologie. Si vous étudiez la parole de Dieu, alors la réponse naturelle est que vous communiez avec le Dieu de la parole. Vous savez, je trouve dans ma propre vie que lorsque je prépare un message, toute l'expérience de la préparation est une combinaison de la prière et du ministère de la parole. Je ne pourrai jamais séparer les deux. Par exemple, je lis un verset et je dis « Seigneur, quelle vérité !» Souvent je me lève pour me promener, parce que je dois bouger, et parce que je suis excité par ce verset. Ou alors je lis un verset que je ne comprends pas, et je dis « Seigneur, j'ai besoin de ton aide à ce sujet. Éclaire mon esprit, montre-moi une écriture qui m'expliquera cela. » Tout le processus de la parole et la prière, et même quand je suis ici devant vous et que je prêche, il y a une partie de moi qui se connecte à la puissance de Dieu tout le temps, parce que je réalise ma fragilité humaine. Ce n'est pas possible d'être dans la parole de Dieu sans être en communion avec Dieu. Et quand vous étudiez la parole de Dieu, c'est un minimum, sinon c'est académique. Non, la prière devrait être générée par la parole. Elle devrait être fondée sur la volonté de Dieu. Je suis fatigué par les personnes qui essaient de forcer Dieu à faire quelque chose, réclamant et exigeant des choses de Dieu, quand Dieu veut que nous nous identifions avec ses causes, qui sont déjà déterminées par sa propre perfection absolue, et sont donc les meilleures causes. Je crois que la vraie prière est caractérisée par la ferveur. Bien sûr, je sais que peu d'entre eux vont entrer par la porte étroite, mais cela ne signifie pas que je ne prie pas. Bien sûr, je sais que les choses dans ce monde vont devenir de pire en pire. Cela ne signifie pas que je ne prie pas pour que Dieu soit encore glorifié au milieu de tout cela, que les âmes soient sauvées. Daniel a prié de cette façon, même s'il avait une prophétie absolue devant lui. Ce sont les trois premières choses. Nous continuerons la prochaine fois. Inclinez vos têtes avec moi, alors que nous terminons. Père, aide-nous simplement dans la simplicité de notre temps ce soir, à nous concentrer à nouveau sur la réalité du besoin de la prière. Tu sais, il me semble, Seigneur, lorsque je regarde en arrière dans les Écritures, qu'il y a très peu d'enseignements sur la façon de prier. Il y a juste beaucoup de prières. Je pense que je t'entends dire que ce n'est pas quelque chose d'académique, c'est quelque chose qui vient du cœur. Jésus a prié une prière qui était un modèle. Daniel nous montre un modèle. Puissions-nous entendre les paroles de Samuel? Sauve-nous du péché, de cesser de prier les uns pour les autres. Fais de nous des personnes de prière, afin que tu puisses faire partie de l'accomplissement des plans et des buts qui glorifient ton saint nom, pour l'amour de Jésus. Amen. Je ne sais pas si ce sont les années de ma vie ou ce que c'est, mais il me semble toujours que le temps passe de plus en plus vite, que ce soit des semaines, des jours, des mois ou des années, ou 45 à 50 minutes. Quand je prêche, je trouve toujours que vous êtes fidèles. Vous venez avec des cœurs si affamés et des esprits si ouverts que je devrais laisser tomber du ciel ces choses grandes et glorieuses que vous n'avez jamais entendues auparavant et vous envoyer dans un respect absolu. Mais Dieu semble me repousser aux bases et je pense que très souvent, vous devez vous asseoir et supporter ce que j'ai à apprendre. Dans beaucoup de choses que je prêche, Dieu est vraiment avec moi. Vous êtes juste le public dans son affaire avec moi. Ce message est peut-être un de ceux-là. mais j'espère que vous entendrez aussi ce que dit l'Esprit de Dieu. L'homme de Dieu est un homme de prière.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.